Bon, tout d'abord, je vois que ça intéresse. C'est bien. Alors, bon, je vais me présenter un tout petit peu. Alors, je ne suis spécialiste de, on va dire, aucune des spécialités qui concernent, que je vais aborder, c'est-à-dire économie. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas géologue, je ne suis pas tout ça. Je suis simplement un citoyen qui s'est intéressé à ces questions il y a quelques années. Et je peux vous citer un petit peu mon parcours personnel. En fait, alors moi je suis artisan au départ. Artisan, je travaille le bois. Et après de nombreuses années de pratique, il y a eu un moment où il s'est passé quelque chose en moi où, je ne sais pas, je me suis demandé pourquoi je fabriquais. J'étais pris peut-être un petit peu comme beaucoup durant les années 80 par cette espèce de besoin d'entreprendre. J'avais mon affaire personnelle, donc mon activité personnelle. Et arrivé à un certain moment où je peux dire j'avais atteint en quelque sorte mes objectifs, il s'est produit comme un vide. Je me suis dit, mais pourquoi je fabrique? Toujours plus. Essayer de gagner de l'argent, essayer d'être connu, je ne sais pas. Je me suis posé bien des questions et j'ai senti le besoin à un moment donné d'arrêter, de lever le pied, de faire ma décroissance. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu les questions, les questionnements qu'on peut avoir sur le sens de sa vie. Je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou quelque chose comme ça, mais sans doute à un moment dans sa vie, on fait un petit retour en arrière, on se dit, mais quel est le sens de ce que je fais? Et c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est à ce moment-là, donc ça remonte à, on va dire, 7-8 ans, où j'ai levé le pied au niveau de mon activité et j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Alors, je suis comme. J'ai toujours eu des convictions politiques, évidemment, mais j'avoue franchement que je ne m'étais pas posé énormément de questions. Enfin, je n'étais pas allé chercher très très loin. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire une espèce de retour en arrière. Et j'ai commencé à m'informer et essayer de comprendre ce qui se passait dans la société et comprendre pourquoi moi j'en étais arrivé là. Voilà, c'est un petit peu mon parcours. Alors, en ces quelques années, bon, j'ai acquis, on va dire, un certain nombre d'informations. Je pense que vous les retrouverez, vous aussi, vous en avez tous, tout le monde, comment réfléchir. On ne va pas dire que, si vous voulez, moi je suis persuadé que le questionnement, particulièrement à notre époque, est fort chez tout le monde. Alors, on ne parvient pas toujours à faire une synthèse des différentes informations qu'on reçoit et de ce qu'on analyse. C'est un petit peu la difficulté. Alors moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors je vais essayer de vous faire partager donc mes remarques, mes analyses. Et puis après, on pourra en débattre. Voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la décroissance? Alors la décroissance, quand on parle de décroissance, évidemment, inversement, on parle de croissance. Alors la croissance, c'est quoi? C'est la croissance du PIB. PIB, ou parfois on utilise le terme PNB, produit intérieur brut, ou produit national brut. Enfin, il y a une légère différence de chiffres, mais c'est très proche. Voilà, c'est. Alors ça, c'est la première chose posée. Donc, la décroissance, c'est la décroissance du PIB. Alors, il y a plusieurs arguments chocs qui, on va dire, à tendance lourde, qui prônent en faveur de la décroissance. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle la finitude du monde.
J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler, entendu ce terme, finitude du monde. Donc, si on dessine une terre, voilà, une terre, eh bien, c'est un tout, et elle est finie, à moins d'aller voir sur d'autres planètes. Mais ça, c'est le premier argument choc. C'est-à-dire que les ressources que nous prélevons à la Terre, à un moment donné, on va en voir le bout, on va arriver à la fin. Alors, en particulier en ce qui concerne les ressources énergétiques, parce que c'est là où se trouve un petit peu le nœud du problème. Le pétrole, le gaz, le charbon, tous les spécialistes s'accordent à penser que même avec une croissance zéro, elles sont épuisées à la fin du siècle. Bon, comment on fait après ? Ces énergies fossiles sont produites notamment par l'entropie solaire. C'est-à-dire que le soleil nous déverse donc son énergie sur Terre, et par un phénomène de photosynthèse, ça va produire donc ces différentes énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon principalement, en principal. Depuis l'ère industrielle, il y a eu un phénomène d'accélérateur d'utilisation de ces énergies fossiles, et particulièrement depuis quelques décennies, ce qui fait que, en quelques décennies, on va épuiser, on arrive pratiquement à la moitié de ces ressources. C'est-à-dire qu'on en a utilisé la moitié en quelques décennies, alors qu'il a fallu des millions d'années pour qu'elles se constituent. Moi, je me dis quand même qu'il y a, quand même une certaine inconscience dans notre façon d'agir. On vit dans le confort, on utilise la voiture, on utilise l'avion, on utilise tout ça, on produit du papier, on produit toutes sortes de choses. Et est-ce qu'on réalise que on est en train d'épuiser la planète en quelques décennies? C'est-à-dire que ce qui reste va s'épuiser de même façon en quelques décennies. Et après, que devient l'humanité? Ça pose question quand même. Concernant le pétrole, il y a un géophysicien qui s'appelle Mario King-Huber qui a théorisé la courbe de production. C'est-à-dire, il a essayé de calculer à quel moment on serait parvenu au maximum de production possible. Alors, il a fait ça dans les années 40-50 concernant les États-Unis. Et dans ces années-là, il avait prédit qu'on parviendrait à un pic de production en 1970. Donc presque plus de 20 ans en avance, il avait fait ce calcul. Et ce pic est arrivé en 1971. Donc il s'est trompé de très peu. Ce qui fait qu'on a appelé ces calculs, on a parlé de pic de Huber, qui est tombé un petit peu dans l'oubli. Et évidemment, vu la crise et la montée du pétrole, du prix du pétrole, on a ressorti, donc on s'est à nouveau intéressé à ces calculs. Et d'autres physiciens, d'autres scientifiques ont cherché à calculer un pic en tenant compte évidemment de toutes les productions mondiales, mais se sont servis de ces calculs à lui et sont arrivés à la conclusion que le pic pouvait se situer entre les années 2005-2010. Certains poussent juste un peu plus loin, mais on peut penser que on y est, ou alors on va y arriver. Ce qui veut dire que
Si la croissance continue, bon, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que quand j'ai proposé cette conférence à Eric, c'était cet été, et la crise économique n'était pas passée par là. On était encore dans une croissance. Alors évidemment, après cette crise qui a démarré en septembre, en réalité un an auparavant, mais bon, on s'en est aperçu surtout depuis septembre. Alors évidemment, on s'intéresse de plus près. Non, où est-ce que j'en suis là? J'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave.
Le pic du
ber. Le pic du ber, merci. Oui, quand j'ai proposé de parler de décroissance, je ne pensais pas à ce moment-là qu'on allait y entrer si vite. Et c'est vrai que, comme beaucoup, on s'attendait à ce que ça soit le prix du pétrole ou le manque de ressources qui amène la décroissance. C'est-à-dire une croissance, je veux dire, subie. Et en fait, c'est arrivé, c'est le capitalisme qui a rattrapé la croissance. Bon, alors ce qui fait que peut-être que ces courbes et ces calculs, on peut les adapter à la nouvelle donne. Mais quoi qu'il en soit, pour les décennies à venir, on va avoir de sérieux soucis. Donc, aussi bien pour le pétrole, on donne. Attendez, j'ai quelques chiffres. Trois. Oui. Concernant le pétrole, ça concerne le pic. Mais au niveau des ressources, on dit en gros 2050. Le gaz, on donne 70 ans. L'uranium, entre 50 et 220 ans. Le charbon, 200 ans. Bon, quoi qu'il en soit, même si qu'on passe ou qu'on passe pas le siècle, ça va arriver. Ce qui fait que notre mode de développement ne va plus être possible. Ça, c'est certain. Ça, c'est absolument certain. Bon, ça, c'est le premier argument. C'est le manque de ressources. De ressources énergétiques. Alors évidemment, on cherche à la pallier avec les énergies renouvelables, entre autres, mais vu l'usage que l'on fait de ces énergies fossiles, il paraît pratiquement évident que même en s'y mettant dardard aux énergies renouvelables, ça ne suffira pas. D'autant plus que les infrastructures, aussi bien concernant la route que les industries, ont été réalisés en fonction de l'énergie qu'on utilise. Ce qui veut dire qu'il va falloir changer toutes nos infrastructures. D'ailleurs, on a bien vu quand cet été le pétrole est monté jusqu'à 1,47 $, je crois, baril, l'affolement. Tout le monde a été pris de panique. Les gens qui commençaient à se demander s'ils n'allaient pas changer de voiture, tout le monde s'est pris de panique, et même les constructeurs, puisque je crois que Renault a accéléré son programme pour faire de la voiture électrique. Mais il y a des choses qui sont imprévisibles. En plus, ce qui est imprévisible, notamment, c'est le cours. Le cours, c'est-à-dire le prix de ces énergies. On a vu comment, en quelques mois, il est passé de 80 $ le baril à 147. Comment il est redescendu encore plus vite et comment il peut remonter tout aussi vite. Ce qui fait que y a des données qu'on ne maîtrise pas et même certaines compagnies aériennes commençaient à s'affoler. Il y a eu beaucoup qui ont fermé, d'ailleurs. Parce que ce qui va être évidemment touché en premier, c'est les avions, ça c'est sûr. On ne va plus pouvoir se déplacer en avion depuis aussi bientôt. Ça risque fort. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde l'avion, mais bon, ça transporte des marchandises, ça transporte toutes sortes de choses.
Bon, alors ça, c'est le premier argument choc. Alors, second argument, la pollution et le réchauffement climatique. Alors, la pollution, ben, on la subit tous. Et ça a des conséquences, évidemment, sur la santé, sur notre santé. Ça a les conséquences sur la santé des plantes, sur la santé des animaux. Et est-ce qu'on peut continuer à polluer toujours davantage, produire toujours davantage de déchets? Et ce qu'on nous propose, c'est-à-dire une croissance, puisque dire quand on entend les politiques, ils pleurent quand la croissance se ralentit, et on se demande s'ils ont... Bon, jusqu'où va leur réflexion? Si elle va jusqu'à leur prochain mandat, jusqu'à... On ne sait pas jusqu'où elle va, mais visiblement, ça ne va pas très loin.
4,
comment
4-5 ans.
Voilà.
4 ans pour recommencer une campagne.
Tout à fait. Bon, ce qui fait qu'on peut se demander si on peut leur faire confiance. Et concernant la pollution et le réchauffement climatique, il y a des déclarations tonitruantes, mais on sait bien qu'elles sont suivies de très peu d'effets. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts contradictoires. La croissance, c'est pour l'activité économique, pour faire du plein emploi. Et plus on fait de la croissance, plus on pollue, et plus le climat se réchauffe. Donc, on sait très bien que ce sont des politiques qui sont impossibles à appliquer. Impossibles. Pourquoi ? Parce que tant que les politiques n'auront pas dit et n'auront pas reconnu qu'il faut ralentir nos activités et il faut arrêter cette croissance, les politiques qu'il y aura contre la pollution et le réchauffement climatique seront toujours très infimes. Parce qu'il y a aussi des lobbies derrière, évidemment. Il y a les lobbies, lobbies constructeurs automobiles, il y a toutes sortes de lobbies. Une quantité de lobbies. Parce que, en fait, tout le monde cherche à défendre son activité, voilà, son beefsteak. Il faut que l'activité continue. Et on ne peut pas comprendre que ça. On ne peut pas le comprendre. Il faut vraiment prendre un peu de recul par rapport à sa propre vie, à ses intérêts personnels, et puis essayer de se dire quand même, si tout le monde fait comme moi, comme je fais, ça coince quelque part. Alors est-ce que moi je dois continuer à faire sans me poser de questions? Il y en a certains qui ont calculé combien il faudrait de planètes pour que tous les habitants de la Terre aient la même activité qu'ont les pays dits développés. Donc il faudrait 5 planètes, quoi. On dit 5 planètes. Je ne suis pas allé vérifier de près les chiffres, hein. Mais même si ce n'est pas 5 planètes, de toute façon, c'est beaucoup plus. Puisque d'autres chiffres disent que 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources mondiales. Et si les 80 autres pourcents de la population mondiale consommaient comme nous, ça serait pas possible. Ce serait tout simplement pas possible. Donc il va bien falloir se poser des questions. Sachant que près d'un milliard d'habitants sur Terre ne mangent pas à leur faim. Déjà, ne serait-ce que pour la nourriture. Je ne parle pas de tout le reste, de la voiture, de tout ce qu'on a chez nous, du chauffage, de n'importe quoi. Simplement, pour l'alimentation, déjà, il y a un problème. Il y a le problème des déchets, évidemment. Bon, il y a, je ne sais pas si vous avez suivi ça, à Naples, ils ne savent plus quoi faire de leurs déchets. Il y a des montagnes de déchets, on ne sait plus où les mettre. Et le recyclage, on n'arrive pas à tout recycler. On peut recycler une partie, mais on n'arrive pas. Évidemment, il faut recycler au maximum. Mais ça ne suffit pas. Surtout si on dit qu'on va continuer à croître. Qu'il faut continuer la croissance. L'un des problèmes, c'est le discours. C'est le discours politique. C'est qu'on continue à dire qu'il faut de la croissance. Alors évidemment, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des aliments. Alors il y a, je ne sais pas si certains ont entendu parler de Carole Poliquin qui a sorti un film documentaire récemment qui s'appelle « Homo Toxicus ». Alors c'est regarder la pollution à partir de l'homme, comment l'homme est pollué. Et elle commence son documentaire en... on la voit en train de discuter avec quelqu'un qui a fait des analyses de son sang. Et donc elle écoute les résultats. Et il s'avère qu'elle a des doses sur certains métaux qui sont bien supérieures à ce qu'il faudrait normalement. Et elle est peut-être certainement pas plus exposée que n'importe qui. Mais en fait, il s'avère qu'on est tous pollués. Tous, à des divers, à des degrés moindres, mais complètement. Et même si on mange bio, même si on vit au grand air, par un biais ou par un autre, la pollution, elle rentre partout. Et alors, elle est allée enquêter aussi sur une zone qui était particulièrement polluée, c'est-à-dire dans une zone industrielle des États-Unis. Et il a été remarqué que les femmes ne font plus que des filles. Et c'est-à-dire sur 5 enfants qui naissent, il naît 4 filles pour un garçon. Pourquoi? C'est un problème hormonal. Et les causes, c'est la pollution. On remarque aussi que en France et partout, les hommes deviennent moins fertiles. Et voilà, donc la liste est longue. Comment? Oui. Ah ben, non, mais ça c'est... Oui, mais c'est un petit peu ça, mais c'est certain... on peut imaginer que de toute façon, qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, la nature va chercher à rétablir quelque chose. C'est vrai que l'accroissement de la population mondiale, c'est un vrai problème. Mais à partir du moment, on peut imaginer qu'à partir du moment où la pollution serait arrivée, parvenue à un tel niveau, qu'effectivement, on ne fera plus d'enfants. On fera plus d'enfants, ou on fera plus de mal, on fera plus de... Mais il va se passer quelque chose. Ça, ou une épidémie, je ne sais pas. Ça peut tout à fait arriver, tout à fait. Ça, on peut tout à fait l'imaginer. Bon, alors, le réchauffement climatique. Alors ça aussi, ça peut être terrible. Montée des eaux. La montée des eaux, ça fait déjà qu'il y a... des populations côtières qui vont devoir déménager. Et dans certains pays, c'est vraiment dramatique, notamment au Bangladesh, la Hollande aussi, en Europe, enfin, il y a tout un tas de zones. Et il risque de se passer un phénomène d'exode, et on commence à parler de plus en plus des réfugiés environnementaux, c'est-à-dire des populations qui sont obligés de se déplacer à cause de problèmes environnementaux. Les réfugiés climatiques aussi, on appelle ça aussi comme ça. D'ailleurs, certains sont en train de réfléchir à est-ce qu'on ne va pas créer un statut, comme il y a le statut des réfugiés politiques, de réfugiés environnementaux. Ça pose des problèmes, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer, évidemment. Comment ça va tourner tout ça, mais on peut imaginer que la situation, on va dire, il risque d'y avoir des conflits sérieux, très très sérieux. Non seulement pour avoir les dernières ressources qui restent, mais également parce qu'on ne pourra plus vivre dans certains endroits. Et ça va être... Là, c'est des populations entières. Alors, il y a un terme aussi qui est un petit peu à la mode depuis quelque temps. On parle d'empreinte écologique. C'est un petit peu pour essayer de voir, pour chaque activité, quelle est l'empreinte écologique. Et c'est vrai, ça, c'est une chose dont on n'a pas conscience dans le quotidien. Et pourtant, bon, ben, pour fabriquer cette bouteille, ce verre, il y a une empreinte écologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a utilisé comme énergie, combien on en a utilisé, quelle pollution on a provoqué en fabriquant ce verre. Tout un tas de choses à regarder. Et donc, il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui calculent l'empreinte écologique. Et c'est vrai qu'avant d'arriver à une empreinte écologique qui soit, on va dire, neutre, c'est-à-dire que le résultat de notre activité aura fait que la nature pourra le résorber et l'assimiler, on en est très très loin. On en est extrêmement loin. Bon, je ne dis pas qu'il faut revivre comme l'homme des cavernes, mais il va falloir... Comment ?
Juste milieu.
Oui, vous trouvez certainement un juste milieu, mais il va falloir changer beaucoup de choses, énormément de choses. Alors, troisième argument, en forme de question, alors, la croissance apporte-t-elle plus de bonheur ? C'est vrai qu'à l'origine, l'objectif, c'était ça, quoi. L'objectif du développement. C'était à apporter du bien-être, des facilités matérielles et une meilleure vie. Et c'est vrai que là, actuellement, on est en droit de se poser des questions. Est-ce que l'objectif est atteint ? Bon, je vais vous lire un petit texte, là. Depuis le début de l'ère industrielle, l'accroissement des biens matériels sophistiqués est censé rendre les hommes plus heureux. Notre civilisation est fondée sur ce que la majorité des hommes considère comme une évidence. Or, le sentiment de bonheur et de bien-être est quelque chose d'extrêmement subjectif et complexe. Ça ne peut pas se résoudre dans l'équation simpliste « progrès égale bonheur ». Et je repense à une étude qu'avaient fait des sociologues. Alors j'avais vu ça dans la revue des sciences humaines, je ne sais pas si certains connaissent cette revue. Et les sociologues qui ont fait cette étude essayaient de savoir, de questionner les gens dans différents pays du monde, dans tous les pays du monde, pour... savoir quel était leur degré de sentiment de bonheur. Et le pays qui était arrivé en tête, c'était Porto Rico, je confonds, ouais, je ne sais plus si c'est Costa Rica ou Porto Rico. Mais enfin, c'était en Amérique latine. Et en gros, comment ?
Je pense que c'est Costa Rica.
Costa Rica. Mais en gros, les pays d'Amérique latine avaient un sentiment de bonheur qui était parmi les plus élevés. Et ce qui ne correspondait pas tout à fait, finalement, au PIB. Donc, il y a quelque chose là. Alors, la recherche de toujours plus de productivité, une production toujours croissante, a impliqué un mode d'organisation du travail. Et... notamment aliénant pour, on va dire, ceux qui font les tâches les plus basses. Et, une spécialisation du travail, une hiérarchisation des tâches. Et ce qui fait qu'on arrive, pour les besoins de la productivité, à une spécialisation qui fait que, en fait, la majeure partie des travailleurs vont avoir des tâches très répétitives. Et donc, là, au niveau des travails, est-ce qu'il y a plus de bonheur ? Alors, il y a la question du travail en lui-même, qui est devenu, dans la majeure partie des cas, donc extrêmement répétitif, avec une hiérarchie dans le monde du travail. Là, je parle de l'entreprise.
d'une entreprise qui emploie un certain nombre de salariés. Je ne parle pas du travailleur indépendant. Bon, alors, il y a l'organisation du travail. Donc, on peut... Alors, effectivement, au départ, l'objectif, c'était plus de bonheur. Et on s'est mis à fabriquer et à créer et à imaginer des objets et toutes sortes de choses de plus en plus. Et nous-mêmes à entasser de plus en plus de choses dans nos maisons. Et l'autre face de ça, c'est un travail qui finalement n'est pas forcément très gratifiant pour ceux qui le font. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la gratification est très inégale. Et en fait, la gratification, elle est bien souvent, elle dépend bien souvent de la place qu'on occupe dans la hiérarchie du travail. Mais le travail en lui-même, de par ses spécialisations, est devenu beaucoup moins intéressant. D'autant plus qu'on n'imagine pas que dans une organisation économique qui veut de la croissance, qu'on remette en question cette organisation du travail. On n'imagine pas. Parce que c'est vrai qu'on recherche toujours plus d'efficacité et pour l'instant, c'est cette organisation qu'on a trouvée. Spécialiser les tâches, faire toujours la même chose et effectivement, c'est efficace. Ça, c'est sûr, c'est efficace. Mais est-ce que c'est très intéressant? Bon, ça. Alors, après, il y a aussi, on peut parler de la répartition des richesses produites. Et on a promis aux classes sociales les plus basses qu'elles vont recevoir le fruit de leur travail. Et en fait, on se rend compte que le fruit de ce travail va toujours plus dans ceux qui ont déjà beaucoup, dans le capital, et toujours un peu moins dans ceux qui ont moins. Et en fait, on se rend compte que ça a été un leurre. Ça a été un leurre. Et que le seul moyen de rétablir les choses, c'est dans les entreprises, les syndicats qui luttent... Mais on n'y arrive jamais, on rattrape jamais. Les classes les plus basses ne rattrapent jamais. L'écart entre les revenus, ça croît toujours un peu plus. Et on l'a vu particulièrement depuis ces 10 dernières années. Les études qui étaient faites à ce niveau-là montraient qu'il y avait une réduction depuis les années 45, une réduction de l'échelle des salaires jusque dans les années 1995. Entre 90 et 2000. Et à partir de 2000, les écarts ont recommencé à s'agrandir. On parle de salaire. Bon, c'est vrai que c'est important, mais il y a évidemment les conditions de vie qui vont avec, bien souvent. Et là, on n'y arrive pas. Donc, on peut se dire que les fruits du progrès ne vont que à une minorité. Une minorité à l'intérieur d'un même pays, mais une minorité également à l'échelle de la planète. Et voilà. Bon, là, je vais vous lire aussi un petit texte. Un peu une réflexion sur ce que j'appelle l'idéologie scientiste. On peut situer, grosso modo, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, le basculement. Le basculement, c'est-à-dire le basculement en termes d'idéologie et de croyance. La remise en cause, en question, des dogmes religieux a fait place à une autre foi, celle du progrès et de la science. Et à partir de cette époque, on pensait que la science et le progrès pouvaient solutionner tous les problèmes des hommes. Il est vrai que les premiers résultats enregistrés, en fait, ont fait basculer, en quelque sorte, l'homme d'une croyance à une autre. De la croyance en un paradis dans l'au-delà,
et en la science. Et des certitudes du religieux et de sa croyance en Dieu, on est passé aux certitudes de l'homme, devenu le nouveau maître de l'univers. Certitude de l'homme de science, et pour le profane, en une foi sans borne à ce progrès. Et moi, je me rappelle, dans les années 60, quand j'étais gamin, c'est vrai que c'était extrêmement fort. C'était très très fort, cette foi dans le progrès. Et donc tous ceux qui ont mon âge se rappellent. Et le salut de l'homme passait par là. Ce qui a correspondu aussi à un déclin accéléré vis-à-vis des religions. Et à cette époque-là, où on était en train de fabriquer ce qui se passe maintenant, on n'avait aucune conscience des conséquences. Et il y a quelques chercheurs qui commençaient à se poser sérieuses questions, mais la masse, on va dire la masse des gens, n'avait aucune conscience de ce qui allait se produire maintenant. Donc on peut dire dans une certaine manière que cet engagement dans le développement et dans le progrès était fait un petit peu, comment dire, ça y est, on ne voyait pas l'ensemble des problèmes. On prenait de la terre tout ce qu'on pouvait prendre, et on prenait sans compter, en quelque sorte. Il a fallu attendre 40 ans pour commencer à compter et à percevoir les résultats. Et c'est pour cela que je parle de croyance et de foi. En même temps, c'est parce que il y avait une foi à cette époque en l'homme, l'homme pouvant solutionner tous les problèmes. Alors évidemment, il y a des résultats, la médecine, par exemple, ou d'autres domaines où effectivement on pouvait être émerveillé par tout ce qui se passait. Et en même temps qu'on était émerveillé par tout ce qui se passait, on se rendait pas compte que dans le même temps, on était en train de fabriquer la fin de ce développement. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de parler de croyance quand on parle de la science, parce que théoriquement, la science... Si tu veux, on en débattra tout à l'heure. Donc ça peut paraître complètement paradoxal. Et pourtant, moi, je suis persuadé que on peut être un homme de science et en même temps, tout en travaillant comme un homme de science, agir en croyant en une certaine démarche. Comment expliquer que tous les scientifiques, que la majorité des scientifiques n'aient pas, réalisé ce vers quoi on allait, si ce n'est par une espèce de foi aveugle dans ce qu'ils faisaient. Alors peut-être que je vais pas dire que ce qu'ils faisaient c'était pas scientifique et c'était pas vrai, mais ce que je dis, c'est qu'il y a une partie du problème qui a échappé à tout le monde d'ailleurs, aux économistes. D'ailleurs, on voit récemment, les économistes presque considèrent que l'économie c'est une science, et on voit le résultat ces derniers mois. Concernant les autres disciplines, tout le monde a eu foi dans les scientifiques et en fait on voit le résultat. C'est pas que ce qu'ils faisaient c'était faux, c'est que certainement il y a une partie du problème qui leur a échappé. Alors là maintenant je vais vous parler un petit peu des théoriciens, on va dire entre guillemets, de la décroissance, c'est-à-dire de ceux, des chercheurs ou scientifiques qui ont amené à ce concept de la décroissance. Un concept de la décroissance qu'on peut rapprocher aussi, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais pas plusieurs écoles, mais il y a plusieurs manières d'arriver à cette idée de la décroissance. Il y a une manière, on va dire, rationnelle, c'est-à-dire analyser les choses sur un plan physique. C'est ce qu'a fait notamment Yves Cochet avec son livre Pétrole Apocalypse, c'est-à-dire essayer de voir les ressources dont on dispose et se rendre compte que physiquement, eh ben, on va y arriver, qu'on le veuille ou non. Et puis, il y a d'autres moyens d'y arriver qui sont, je dirais, qui seraient plus de l'ordre philosophique et de l'ordre du choix de vie. Et il y a tout un courant qui représente cet autre moyen d'arriver à la décroissance, c'est un courant qu'on appelle la simplicité volontaire. Bon, c'est un courant qui est né, on l'appelle en tout cas comme ça au Canada, il y a un certain nombre d'années, mais il y a des penseurs ou philosophes qui ont été un peu précurseurs de bon, moi je pense à Rousseau, Henri David Thoreau, bon, que vous connaissez certainement, si vous faites de la philosophie. Il y a Gandhi, évidemment. Alors, dans ceux qui ont fait des écrits qui se rapprochent un peu plus de ce concept, il y a Jacques et Ellul. Alors, il y a notamment celui qu'on appelle le père de la décroissance, c'est-à-dire celui qui a énoncé ce terme le premier, c'est Nicolas Georgescu-Roegen. Il y a André Gorz, Ivan Illich, avec La convivialité. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. La convivialité qui, pour lui, n'a pas tout à fait le sens commun qu'on utilise. C'est-à-dire, pour nous, la convivialité, c'est que ça soit agréable entre différentes personnes. Voilà, on vit en convivialité. Alors, lui, le sens qu'il donnait au mot convivialité, c'était... C'était pas exactement celui-là. Ça avait rapport avec la technique, en fait, avec l'utilisation de la technique. C'est-à-dire que il considérait, pour lui, la convivialité, c'était que l'homme garde la maîtrise de son outil. C'est-à-dire à partir du moment où, tant que l'homme décide dirige la machine, c'est correct. Mais à partir du moment où il y a un moment où la technologie devient tellement importante que c'est la machine qui commande l'homme. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus maître de ce que l'on va réaliser avec l'outil. Et la convivialité, pour lui, c'était préserver ça, préserver la maîtrise de son outil. Donc, ce qui veut dire, évidemment, qu'il prenait plutôt des activités artisanales, des structures de fabrication petite échelle, petite unité de fabrication, et il voyait plutôt, voilà, mais que les grandes industries menaient forcément l'homme à sa perte. Alors, il y a également François Partant qui n'a pas parlé directement de la décroissance parce que François Partant est un économiste au départ. Il est décédé en 1987 et à l'époque, c'est un terme qui n'était pas encore tellement utilisé, mais ses conclusions étaient grosso modo les mêmes. Et il pensait déjà à la décroissance. Donc il y a un ouvrage que je vous recommande en particulier, c'est La ligne d'horizon. C'est son dernier ouvrage, il est décédé avant de le terminer, en fait c'est ses amis qui ont fini et édité l'ouvrage. Mais François Partant a le regard de quelqu'un qui a travaillé notamment pour le tiers-monde, C'était un économiste de haut vol et il travaillait pour des grandes organisations internationales. Il a fait ce constat que ça n'allait pas pouvoir continuer comme ça. Et lui a réfléchi notamment à d'autres modes, notamment en concernant l'aliénation de l'homme. C'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'avec le mode de développement qu'avait l'Occident, on n'allait pas pouvoir résoudre les problèmes du tiers-monde. Et il a notamment réfléchi à d'autres structures de travail et d'autres organisations économiques. Et il a imaginé une organisation qu'il appelait la centrale économique et qui s'inspire de pratiques ancestrales, et notamment à Madagascar. Et si ça vous intéresse, si la question vous intéresse, donc voilà, vous pouvez lire cet ouvrage, La ligne d'horizon. Il y a toute une première partie sur un exposé économique, et la fin parle de ces projets. Alors, on va se rapprocher dans les années 70 de ce concept, et notamment avec le Club de Rome qui, en 1972, a prôné une croissance zéro. On n'est pas encore à la décroissance, mais déjà, il y a un certain nombre de chercheurs, de scientifiques qui ont travaillé sur des projections. Ils se sont rendus compte que, déjà dans les années 70, que c'est pareil. Et la même chose, il fallait arrêter ce mode de développement. Donc, ils vont doucement. Ils disent déjà « croissance zéro ». Bon, c'était un début. On se souvient aussi de la candidature de René Dumont au présidentiel en France, donc en 1974. Voilà. Alors, plus récemment, vous avez d'autres auteurs qui ont écrit des ouvrages sur la décroissance. Il y a Serge Latouche, Paul Ariès, qui donne de nombreuses conférences. Il y a Pierre Rabhi, qui s'était présenté au présidentiel de 2002 et qui prônait la décroissance, qui continue d'ailleurs à faire des conférences. Sinon, au niveau des organisations, je peux en dire rapidement deux mots. Il existe un parti politique de la décroissance, bon, qui a présenté des candidats. C'est un parti qui est basé autour de Lyon. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler aussi du journal de la décroissance. Ce sont les mêmes, en gros. Les casseurs de pub aussi. C'est un groupe qui se trouve donc du côté de Lyon. Il y a une revue qui a été créée il y a 2 ans, qui a démarré il y a 2 ans, qui s'appelle Entropia. Ça se veut une revue de réflexion et d'analyse sur la décroissance, autour de la décroissance. Voilà, Yves Cochet, il participe dans les personnes un petit peu connues. Oui, il y a Yves Cochet, Serge Latouche, Jean-Claude Besson-Girard. Voilà, il y a de nombreux contributeurs. Miguel Benassayag aussi, je crois, fait aussi participé. En 2005, il y a eu les États généraux de la décroissance équitable à Lyon, qui a réuni 300 personnes. Donc, si vous voulez, la décroissance, il y a une mouvance militante autour de la question de la décroissance. Il y a un réseau des objecteurs de croissance aussi en France. Voilà, bon, écoutez... Voilà, je crois que j'ai fini mon exposé. Si vous voulez, on peut débattre.